Libre Radio, la radio qui n'en finit pas. www.libradio.libradio, la radio qui n'en finit pas. www.libradio.org.
Mais tu sais qu'on dit que toutes les meilleures choses ont une fin.
Mais ici, la fin, c'est la meilleure chose.
Voilà, donc nous sommes en direct depuis notre studio 99 à l'espace quartier des Charmilles et nous sommes en compagnie d'Audrey. Bienvenue à toi, Audrey.
Merci.
Avec plaisir, tu es parmi nous parce que tu représentes Interaction, l'association suisse pour les intersexes. Alors nous allons doucement t'interroger sur que se cache derrière ce nom Interaction et que se cache derrière le substantif intersexe. D'ailleurs, on va commencer tout de suite. Je ne sais pas si tu aimerais d'ores et déjà peut-être commencer à te présenter toi au sein d'intersexe, du point de vue d'intersexe, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans le cadre de cette association, l'association des intersexes de Suisse.
C'est ça. Alors moi, je m'appelle Audrey, j'ai 25 ans, je suis une femme XY, ça veut dire que j'ai des chromosomes XY, je suis donc intersexe et je suis la présidente de cette nouvelle association. Présidente, c'est un titre qu'il faut donner en Suisse pour quand on est dans une association. Je fais exactement la même chose que les autres,
oui.
C'est-à-dire que j'essaie de mettre en contact des personnes intersexes, des parents et de partager les informations qui existent sur les personnes intersexuées.
D'accord. Alors voilà, justement, on va tout de suite entrer dans le cœur du sujet. Alors, comment est apparu ce terme intersexe? Comment et quand est apparu ce terme intersexe? Et que contient-il exactement?
D'accord. Donc en fait, d'abord, c'était dans les années 50 et avant, on parlait d'hermaphrodisme et de pseudo-hermaphrodisme. Donc ces termes ont quand même une connotation mythologique derrière. Quand on imagine un hermaphrodite, on imagine tout de suite l'hermaphrodite endormi qui est au Louvre, encore qui est vraiment avec les deux sexes, et c'est souvent pas le cas. Donc ensuite, en Amérique, il y a le terme intersex condition qui est sorti, donc en anglais, et qui en fait incluait toutes les personnes qui avaient la maladie d'être ni homme ni femme, donc qui ne rentraient pas dans ces deux catégories binaires.
D'accord, et là tu parles bien de maladie, c'est-à-dire qu'à ce moment-là...
À ce moment-là, c'est toujours considéré dans les milieux médicaux comme une... Enfin, pas toujours, mais c'est encore...
Actuellement,
on peut encore considérer ça comme une maladie dans certains milieux médicaux, par certains médecins. Heureusement, ça change.
Oui.
Voilà, donc à l'époque, c'était vraiment intersex condition qui était la maladie de n'être pas homme ou femme.
Mmh.
Ou d'avoir des caractéristiques qui ne comprennent pas... Donc, en fait, quand on parle... d'intersexe, il faut imaginer un continuum du sexe. C'est-à-dire qu'il y a le sexe féminin et le sexe masculin. Et après, il y a plein de choses au milieu qui peuvent varier par rapport aux chromosomes, aux hormones, par rapport aux organes génitaux internes, externes, etc. Ensuite, en fait, le terme intersexe a été revendiqué par dans les années 80-90 par les militants intersexes. Et donc, du coup, en fait, là, quand ils l'ont repris, c'est devenu une identité politique et plus une identité pathologique ou une identité clinique.
Okay, ouais.
Voilà. Et donc du coup, en fait, dans les mouvements intersexes, on essaye de faire comprendre à la population et aux médecins que d'être né avec une variation dans ses organes génitaux, dans son développement sexuel, c'est pas du tout une maladie, en fait, c'est quelque chose qui touche plus de personnes que ce qu'on ne croit.
Mmh.
En fait, on arrive jusqu'à 1,7% de population à être intersexe. Donc 1,7%, si on imagine que tout le monde a au moins 100 amis sur Facebook, il y a quand même beaucoup de chances qu'une de ces personnes-là soit intersexe.
Mais quand tu parles de ce chiffre-là, c'est une statistique au niveau européen, mondial, enfin, quel est le référent?
C'est l'ONU qui l'a dit.
D'accord, ok. Donc a priori, ça couvre la planète.
C'est ça.
Ouais, d'accord.
Voilà. Et donc du coup, ensuite... dans les pays anglo-saxons, on parle de DSD maintenant, plus de intersex condition. DSD, c'est pour Disorder of Sexual Development ou désordre du développement sexuel. Bien sûr que l'utilisation du terme désordre, c'est de nouveau pathologisant et ça demande de nouveau en fait, une condition qui est anormale, qui sort de la normalité. Donc en Suisse, depuis 2012, la CNE, donc la Commission nationale d'éthique, recommande d'utiliser le terme VDS ou variation du développement sexuel. L'utilisation du terme variation et plus désordre, en fait, c'est moins stigmatisant et ça montre aussi que être intersexe, c'est une variation du vivant et c'est pas une pathologie et c'est pas une maladie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, enfin, que j'aimerais bien qu'on comprenne aujourd'hui, c'est que être intersexe n'est pas une maladie, c'est juste une variation qui touche plus de personnes que ce qu'on ne croit.
Mmh. Lorsque tu es confronté justement aux personnes qui t'entourent, qu'est-ce que tu remarques dans leur regard ? Est-ce que c'est d'abord de la curiosité ? Est-ce que c'est d'abord une... Alors, quand je dis une curiosité, ça peut être une curiosité un petit peu malsaine ou alors saine, tout à fait, loyale et puis voilà. Ou alors, des fois, tu t'aperçois qu'il y a un peu un regard suspicieux ou je ne sais pas. Comment est-ce que tu te reflètes dans le regard des personnes auxquelles tu t'adresses ?
Donc, quand je fais un coming out, entre guillemets.
Exactement.
En fait, c'est assez différent parce qu'au début, quand j'ai fait mon premier coming out à une personne en disant que j'étais intersexe, je devais avoir 17 ans. C'était à ma meilleure amie à Ibiza, sur une plage, ivre. Et je lui ai dit, écoute, il faut que je te raconte, je suis malade, mais il faut que tu le dises à personne. Parce que j'avais jamais rencontré de personne qui était intersexuée, j'avais jamais rencontré de personne comme moi, j'avais que les discours pathologisants des médecins en tête, et je pensais que c'était une chose qui touchait une personne sur 1 million, et je pensais que j'étais la seule de Suisse, ou la seule du monde, ou je sais pas. Et donc du coup, je racontais ça, limite avec les larmes aux yeux, comme si c'était un gros secret que je lui disais, un poids lourd que je lui donnais. Et donc du coup, ma meilleure amie ne m'a plus jamais reparlé après.
Oh, ah ouais.
Parce que elle s'est dit, elle me fait cet aveu. Je vois que ça la touche. Je vois que c'est un secret et je vois qu'il ne faut pas le dire. Ensuite, je me suis gentiment un petit peu... Enfin, j'ai vu des vidéos sur YouTube, par exemple. J'ai rencontré des personnes intersexuées. J'ai rencontré des médecins non pathologisants. J'ai augmenté un peu ma vision de la chose et je me suis rendu compte que ce n'était pas une maladie, que ce n'était pas rare. Et qu'en fait, les choses qui m'ont été faites ont été dans le but de m'invisibiliser.
Je comprends.
En me rendant compte de ça, la façon dont je faisais mes coming out a changé. À la place de dire « Oh, faut que je dise un truc. » Non, déjà, je ne vais pas dire à quelqu'un « Hey, salut, tu sais quoi, je suis intersexe. » Non, si ça vient sur le tapis, si on parle une fois de genre, si on parle d'identité, si on parle de mon tatouage, de mes chromosomes, ou si on parle de... je ne sais pas. Je vais le lui dire d'une façon... qui comprennent qu'en fait, c'est une chose qui est normale. Mmh. Et voilà. Et donc, les gens, en général, ils sont là, intersexe ? Mais c'est quoi ? Et donc, du coup, je leur explique, ils sont là, ah, mais donc, du coup, t'es hermaphrodite ? Parce que l'hermaphrodisme, moi, quand j'étais à l'école secondaire, en biologie, on apprenait le terme hermaphrodite. Je savais pas qui me définissait à l'époque, mais...
On va revenir là-dessus.
Mais voilà.
Alors, justement, à quel moment, parce que tu as dit qu'extrêmement jeune, 17 ans, tu as fait ton premier coming out, à quel moment de ton enfance tu te détermines ou tu te rends compte, tu te détermines comme intersexe ? Ça vient tôt ou...
Donc, mes parents ont appris dès ma naissance que j'étais intersexuée.
D'accord.
Au début, en fait, on leur a dit de ne rien me dire et de ne rien dire à ma famille. Mmh. Et à 8 ans, j'ai subi mes premières opérations.
Opérations
qui ont été très, très lourdes et qui n'ont pas réussi aussi bien que ce qu'on avait dit sur le papier. Donc, à 8 ans, j'ai subi, de 8 à 14 ans environ, j'ai subi presque toutes les semaines, ou vraiment régulièrement, des narcoses complètes pour des opérations ou des dilatations. Voilà.
C'est lourd, ça.
Non, enfin, c'est lourd, oui.
C'est le commun de ce qui attend les enfants intersexes.
C'est le commun de ce qui attend les enfants intersexes aujourd'hui dans une approche pathologisante, oui.
J'ai compris. Oui, voilà, parce que j'allais te poser après la question, mais continue. J'allais te poser la question après sur y a-t-il des courants, c'est-à-dire au sein même du corps médical, des courants qui disent non, attendez, ça n'est pas une pathologie.
Oui, il y a des courants qui se créent.
Ouais. Mais donc, revenons-en, voilà.
Revenons-en à nos moutons.
Exactement.
Donc, en fait, moi, à 5-6 ans, je ne me souviens plus, mais je jouais à la poupée avec ma sœur. Et donc, du coup, je mettais des poupées sous mon t-shirt. Et avec ma sœur, on jouait à accoucher, comme beaucoup de filles, je pense, le font. Mmh. Et mes parents se sont dit, non, mais là, on fait quelque chose de faux. Parce que si elle joue avec des poupées, alors que nous, on sait qu'elle est stérile parce qu'elle est intersexuée et que dans son corps, il n'y a pas d'ovaire, mais il y a des testicules. Et que donc, du coup, mais comment on fait ? Et puis, la famille ne le sait pas, mais elle va se repérer. Qu'est-ce qu'on peut lui dire ? Et donc, du coup, Quand j'ai commencé à jouer avec ces poupées, à accoucher, à les mettre sous mon t-shirt, mes parents m'ont annoncé que beaucoup de femmes ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et devaient adopter.
D'accord.
Alors moi, j'avais 6-7 ans. J'avais 5-6 ans plutôt. Et donc, j'apprends l'adoption. Qu'est-ce que c'est que l'adoption ? J'en ai aucune idée, on m'en a jamais
Bien
parlé.
Sûr.
Et on me dit, bah, en fait, c'est en Afrique, tu vas adopter des enfants noirs. Bon, alors politiquement correct, ça ne l'est pas, mais c'est comme ça que je l'ai appris. Donc, à 5-6 ans, j'ai commencé à imaginer mon chemin de vie comme une personne qui n'allait pas avoir d'enfants et qui allait adopter des enfants en Afrique.
Mmh.
Ensuite, je me suis fait opérer. Donc, je savais que j'avais un problème, une maladie, quelque chose qu'il fallait changer.
En quoi, si je peux me permettre, mais tu ne réponds pas
ouais.
si tu ne te sens pas à l'aise avec
ça.
En quoi consiste cette opération et ces opérations ensuite ?
Alors, il y a plusieurs opérations qui sont faites sur les personnes intersexuées selon leur corps et selon leur, je mets des gros guillemets, besoin.
Oui.
Moi, j'ai eu une vaginoplastie. Donc, c'est la création d'un vagin avec une autogreffe. Et j'ai eu une gonadectomie. Donc, c'est l'ablation de mes testicules qui est à l'intérieur de mon ventre. Voilà.
Donc tes testicules étaient à l'intérieur de ton
c'est
corps,
ça,
ce qui
pas...
fait que quoi qu'il en soit, ils n'auraient pas été opérationnels.
En fait, moi j'ai un syndrome d'insensibilité aux androgènes complet. Ça
okay.
veut dire que les testicules qui étaient dans mon ventre, qui créent des androgènes et de la testostérone,
mm-hmm.
en fait, n'étaient pas assimilés par mon corps. Donc
ah.
mon corps, ils assimilaient pas ça et automatiquement. Mon corps avait une réaction chimique et les transformait en œstrogènes et en progestérone,
ah.
ce qui aurait en fait développé une poitrine, des hanches, etc. Donc ça, c'est dans ma variation à moi, mais il y a une infinité de variations.
Oui,
hein.
oui, oui.
Donc en fait, ça aurait été pas du tout utile de les enlever.
Voilà, c'est pour ça que je te posais cette question, parce que dans le cas où ces opérations n'auraient pas... Ouais, bon, je vais trop répondre, puis après je te pose. Je
donc,
suis désolée.
Non, c'est pas grave, pas grave. C'est un sujet qui est surprenant et qui révèle de beaucoup de surprises à quel point c'est absurde. Donc voilà. Et en fait, on me les a enlevés en disant à mes parents, si on garde ces testicules, elles risquent d'avoir des cancers des testicules parce que, ben, à l'intérieur du ventre, c'est plus chaud et donc chez les hommes. En général, c'est dehors et donc du coup, c'est plus frais et en fait, ça évite que des cancers, enfin qu'il y a un cancer qui se produit.
Oui, d'accord.
En fait, le risque de cancer, il a été montré qu'il est assez minime. Il n'y a pas beaucoup de statistiques mais, qui sont faites parce qu'on ne recense pas trop ça et souvent, on les enlève. Donc, comment on peut vérifier s'il y a vraiment un cancer ? C'est les idées qu'on avait à l'époque. Et donc, du coup, on les a enlevés et en fait, la testostérone qui est produite, par des testicules ou par l'œstrogène par les ovaires, ça n'a pas seulement comme but de la puberté, en fait, c'est des hormones de croissance.
Mm-hmm.
Donc ça va aussi dans les os, par exemple.
Mm-hmm.
Et en fait, le fait qu'on me les ait enlevés à 8 ans et que j'ai eu un traitement hormonal substitutif dès 12 ans, donc ça fait qu'il y a un laps de temps où je n'avais pas d'hormones du tout.
D'accord.
Et donc,
ça porte des conséquences.
Ça porte des conséquences sur les os. Beaucoup de personnes intersexuées. Heureusement, ce n'est pas encore mon cas, mais moi, mes os sont en train de. Sont plus aussi solides qu'ils n'étaient à l'époque, mais ont de l'ostéoporose à un très jeune âge.
Ah, ça provoque de l'ostéoporose.
Voilà.
D'accord.
Et donc, voilà. Donc là, je me suis rendu compte que j'avais un problème avec toutes les opérations, mes 16 jours à l'hôpital, les jours où je loupe à l'école, etc. etc. En fait, j'allais toutes les semaines à l'hôpital et on me faisait une dilatation. C'est en fait pour vérifier que l'enfant de 8 ans que j'étais soit toujours pénétrable. Parce que c'est super important d'avoir une relation hétérosexuelle à 8 ans.
Ouais. Avec une pénétration.
Avec une pénétration, etc.
Ouais,
donc
ouais,
voilà.
Ouais.
Voilà, et ensuite, les médecins, dans mon cas, ont essayé de me le dire. Parce que mes parents essayaient de me le dire aussi et que mes parents étaient un petit peu contre cette idée de créer un secret parce qu'ils voyaient bien que j'allais à l'hôpital et il fallait qu'ils m'expliquent. Mais quand ils m'expliquaient, et moi j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, je ne sais pas, je ne savais pas ce que ça voulait dire des gonades, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et on m'expliquait ça avec des mots qui étaient médicalisants, qui étaient compliqués, qui étaient bien au-delà de mon vocabulaire de l'époque. Et en plus, quand on me le disait, on avait toujours une gêne. Oui, alors, tu veux qu'on t'explique ? Ok, donc... Ok. Et donc, du coup, ben, quand on voit ça, on n'a pas envie, après, de poser des questions. Et en fait, ça crée un tabou. Ça fait que du début de mes opérations, plus ou moins, jusqu'à mes 16-17 ans, j'étais un peu une autruche. Je mettais ma tête sous le sable dès qu'on m'en parlait et je disais « je veux pas savoir, je vois que c'est compliqué, je vois que ça met les gens mal à l'aise, je vois que c'est grave, je vois que c'est dangereux, je vois que c'est pas bien. » Donc, on n'en parle pas et tout va bien. Voilà.
Wow.
Et donc, c'est à 16-17 ans, quand j'ai fait mon premier coming out, plus ou moins, à ma meilleure amie, justement, que j'ai appris vraiment que j'étais intersexuée et pas que j'avais une malformation du ventre et que c'était pour ça que je pouvais pas avoir d'enfant.
Quand on est un jeune enfant et qu'on est baladé dans différents services de l'hôpital et que finalement le public que l'on, enfin les personnes adultes auxquelles on s'adresse majoritairement, elles ont des blouses blanches, comment est-ce qu'on se sent soi-même? Est-ce qu'on se dit que c'est pareil pour les autres enfants ailleurs ou est-ce qu'on se dit qu'effectivement on est malade? Quel cheminement on fait à l'intérieur de soi? Parce que la deuxième partie, c'est des pédopsies sont-ils quand même présents? Enfin,
alors, disons que dans le sujet, dans le domaine de l'intersexuation, c'est assez bizarre les visites médicales, parce que ça touche quand on se développe avec la puberté, ça touche les seins, ça touche les organes génitaux, ça touche la pilosité, ça touche les endroits qui sont intimes, et donc quand on grandit en tant qu'intersexe opéré, en fait. Cette intimité en fait, qu'on a le droit, en tant qu'enfant ou en tant qu'adolescent, en tant que personne en général, d'avoir un organe sexuel intime qui nous appartient, mais en fait, cette intimité, elle nous est enlevée.
Ah ben, bien sûr.
Ah ouais, parce que à chaque fois qu'on va chez le médecin, enlève ta petite culotte, montre-nous ce que tu as. Est-ce qu'on va mesurer les seins? Est-ce qu'ils ont poussé assez vite? Est-ce qu'ils ont poussé assez grand? Est-ce qu'ils ont la même forme? Est-ce que tu es assez poilu? Est-ce que tu n'es pas assez poilu? Pourquoi tu n'as pas de poils? Pourquoi tu as des poils?
Donc finalement, là, on mesure, on a des règles.
Oui, il y a des règles. Enfin, si tu veux voir des photos qui sont assez dégueulasses, tu peux aller checker Predator sur Google. Il y a vraiment une clinique de l'intersexuation en fait, qui est créée sur l'idée qu'un corps ressemble à ça et qui doit se développer comme ça, et que ça, c'est la normale, et que si t'es pas normale, nous, en fait, on t'offre la binarité, on t'offre le cadeau d'être... ce qu'on considère comme normal
Absolument. On va venir dans quelques instants sur quelques mots, tu vas nous les rappeler, parce qu'effectivement, on a parlé intersexe, on a parlé binarité, non-binarité, genre, etc. Je vais te poser quelques questions pour que les personnes qui nous écoutent puissent
comprendre.
Se faire une idée plus claire de tout ce qu'on dit en ce moment. Mais avant cela, puisqu'on était dans le monde médical, dans cet univers-là, alors justement, y a-t-il des médecins en courant médical qui considèrent que l'intersexualité n'est pas une pathologie et que donc on ne traite pas, en tout cas pas de cette manière-là, et que l'on va donc gérer ça d'une autre manière et qu'on va donc parler aux parents d'une autre manière?
Ouais. Il y a un courant qui se crée. C'est pas un courant encore qui est partout. Gentiment, ça change, mais on fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 3 pas en avant, 2 pas en arrière, enfin, voilà. À l'hôpital universitaire de Lausanne, au CHUV, il y a quelques médecins qui ont changé, en fait, qui ont créé une équipe interdisciplinaire pour changer la prise en charge des personnes intersexuées en Suisse. Ils ont aussi participé en 2012 à la mise en place de la Commission nationale d'éthique qui a mis des recommandations sur comment prendre en charge médicalement une personne intersexuée, c'est-à-dire ne pas la prendre en charge tant que c'est pas vital, tant qu'elle arrive à uriner, à déféquer naturellement, normalement, il n'y a pas de besoin d'opération. Comment expliquer aux parents que l'enfant va très bien, qu'il n'a absolument aucun problème de santé, que ma foi, son corps, il est un peu différent du corps de l'enfant de la voisine. Mais bon, on ne va pas faire une opération cosmétique sur un enfant parce qu'il a des oreilles trop grandes.
Absolument. Mais juste avant ça, comment est-ce qu'on diagnostique l'intersexuel? À quel moment est-ce qu'on...
Alors, il y a plusieurs moments. Chez certaines personnes, c'est à naissance.
D'accord.
Moi, ma maman, elle avait une amniocentèse.
Oui.
Donc, on a fait un test du karyotype quand j'étais dans son ventre. On a vu que j'avais des chromosomes XY, donc qui sont typiquement masculins. Et quand je suis née, j'avais un phénotype féminin. Donc, j'étais extérieurement une fille. Et là, les médecins se sont dit, oula, il y a un problème parce que, encore, quand on regarde l'échographie et qu'on dit que c'est un garçon, mais que c'est une fille, ou que on dit que c'est une fille et que c'est un garçon, ça peut arriver. Mais dans le karyotype, c'est quand même chaud. Alors, on a fait des tests et c'est là qu'on a vu que j'étais intersexuée. Et donc, on s'en est rendu compte à 2-3 jours de ma vie. D'autres personnes naissent avec un clitoris qui est plus long que la moyenne. Donc, quand un clitoris est plus long qu'un certain, qu'une certaine longueur et plus court qu'une certaine longueur, on ne sait pas si c'est un pénis ou un clitoris. Donc, en général, on coupe, mais voilà.
D'accord.
Et donc là, on le découvre aussi. On peut aussi s'en rendre compte après, avec la puberté. Parce que l'enfant a eu un sexe qui était assigné femelle ou mâle, mmh. et ensuite il a une puberté qui va dans l'autre sens ou dans les deux sens, où il n'y a pas de puberté, où il y a une puberté qui est précoce, tardive, enfin voilà. Ou alors, on peut aussi s'en rendre compte au moment de faire l'amour, parce que ça ne fonctionne pas.
Bien sûr.
On ne peut pas dire, en fait, on sait qu'un enfant a un sexe sexué à la naissance, parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on remarque après avec, avec le temps.
Voilà, qui ne sont pas, disons, des caractéristiques physiologiques évidentes ou claires. Et là, on va toucher au genre, justement, à la personne qui se sent à l'intérieur d'elle-même, plus comme ceci ou comme cela. Toi-même, à quel moment, justement, tu t'es déterminé en termes de genre ? Et voudrais-tu, avant cela, peut-être dire quelques mots sur le genre ? Qu'est-ce que c'est que le genre, selon toi ?
Ben, le concept de genre, ça a été instauré dans les années 50 par John Money, qui est aussi le fabuleux médecin qui a instauré la clinique de l'intersexuation et les opérations non consenties très rapides. Et en fait, c'est un terme qui est une construction sociale qui a été très vite reprise par les féministes et qui, en fait, dit que le genre féminin masculin est un continuum et qu'il est dynamique et qu'il change et qu'il se crée.
Ouais, d'accord. À cela, nous allons ajouter quelques mots comme la binarité, la non-binarité. Voudrais-tu peut-être nous déterminer quelques mots de cela ?
Quand on parle de binarité, en fait, c'est que dans la société actuelle, on parle toujours d'hommes et de femmes. Mais il n'y a rien au milieu. Il y a des hommes, il y a des femmes. Il y a le rose, il y a le bleu. Il y a le noir, il y a le blanc. et donc, du coup, en fait, dans la non-binarité, il y a une non-binarité sexuelle, donc, qui est le cas des intersexes, où on dit... Bah en fait, le sexe, donc la biologie en fait, du corps, enfin, le sexe qui est donc du coup en fait, les chromosomes, les hormones, les organes sexuels internes, externes, etc., sont sur un continuum et ne sont pas forcément 100% dans une de ces deux cases. Mmh. Ensuite, il y a aussi une binarité du genre, où une personne peut se définir comme une fille ou comme un garçon, ou un peu plus de l'autre ou de moins. Enfin, voilà.
Oui, absolument.
Et donc, du coup, la non-binarité, c'est la déconstruction de cette binarité qui nous a été imposée.
Voilà. Et alors là, on peut continuer par... souvent, on entend sexe assigné. Qu'est-ce que le sexe assigné ?
Le sexe assigné, c'est le sexe qu'on donne aux enfants quand ils naissent. Parce qu'on est obligé d'indiquer dans le passeport F ou M.
Voilà. Donc finalement, on se coince d'une certaine manière dans des décisions qui sont déjà... très aléatoires et puis qui ne prennent en compte aucunement justement le ressenti de la personne et son genre.
Qui ne prennent aucunement... Voilà. Ouais.
D'accord, on va tout de suite, parce que ces informations, elles sont également trouvables sur le site de l'association Interaction. Donc on va tout de suite donner l'adresse internet www.inter-action-suisse.ch. On y trouve bien entendu des définitions, ce qu'on essaie de faire là également, intersexe c'est quoi, et etc., sur quelques notions justement qu'on vient d'aborder. Au sein de l'association Interaction, est-ce que vous avez recours également à des alliés justement médecins qui sont de ce courant non médicalisant, non interventionniste et qui pourraient, comment dire, légitimer de manière technique justement le retrait de cette manière de concevoir l'intersexualité ?
Alors, on travaille avec un médecin et un psychologue de l'hôpital universitaire vaudois. Qui sont donc du coup des alliés ou des pairs, qui, en fait, si quelqu'un vient et nous dit on a besoin de voir un médecin, on a besoin d'avoir un point de vue non pathologisant sur qui nous sommes, sur des questions, on n'a pas envie d'aller voir un médecin, rien à voir, qu'on a trouvé sur Google, ils peuvent nous demander, et nous on a une liste d'adresses en fait, de médecins qui sont non pathologisants et qui savent ce que c'est qu'être intersexe, qui savent les défis et qui savent comment comment travailler avec nous. Quoi.
Ouais, absolument. À quel moment, comment as-tu rencontré justement des alliés et en tout cas des pairs, des personnes qui partageaient la condition des personnes intersexes ? Parce que j'imagine que c'est extrêmement compliqué.
Alors,
d'arriver à trouver, à se contacter.
Ben, le médecin par excellence non pathologisant en Suisse, et aussi le médecin qui m'a opéré.
Ah.
Donc c'était assez facile de le rencontrer. Ouais. Lui, comme moi, ben, il a eu un grand cheminement en fait, dans sa façon de penser, dans sa façon d'agir. Parce que ben, quand il a appris... tous les médecins, ils ont appris qu'il y avait des hommes, des femmes, et ils ont du coup pratiqué dans cette, avec ce cheminement-là.
D'accord, ça veut dire qu'en gros, on peut dire que tous les médecins non pathologisants viennent de la médecine pathologisante.
Bien sûr, voilà. Et donc du coup, ouais. Ben, c'est logique que, c'est pas, que pour devenir non pathologisant, d'abord on était pathologisant.
Exact.
Et voilà.
Il y a voilà, tout ce processus de déconstruction
qui se fait ben, chez les personnes ouais. concernées, mais aussi chez les médecins.
D'accord. Je te propose que l'on, maintenant qu'on a tracé d'une certaine manière les contours de la notion, de la condition des personnes intersexes, à moins que tu aimerais rajouter quelque chose, nous passions à proprement parler à l'association, à la manière dont celle-ci s'est créée.
Okay.
Et puis, bien entendu, que de toute façon, on va revenir un peu à certains moments, certainement sur des notions générales. Mais j'aurais voulu savoir, alors, comment est née, fais-tu partie des fondatrices, fondateurs de cette association, et comment est-elle née? D'où est venue l'idée? De qui est venue l'idée?
Alors en fait, je vais d'abord faire un petit peu. Hein. Comme en fait on est invisibilisé avec les opérations, quand on est opéré, quand on prend des hormones substitutives, en fait il n'y a aucune façon de savoir qu'une personne est ou n'est pas intersexe, en général. Si tu me vois dans la rue, tu ne vas pas dire « Ouh là !»
Certainement, tout à fait. C'est pour ça que je te disais, oui, j'imagine que c'est extrêmement compliqué de se regrouper, voilà. De se trouver. Ouais.
Et ensuite... Moi, je me suis toujours dit, bon, je suis intersexe, je ne connais personne qui est intersexe, personne ne comprend ce que c'est, personne ne sait ce que c'est. Et donc, du coup, c'est quelque chose que je vais juste cacher et que je vais vivre, enfin, que je vais oublier, en fait. C'est juste quelque chose qui a fait partie de mon enfance, et maintenant, ben, je suis une femme, et voilà. Et en février 2016, donc il n'y a pas très longtemps, je suis allée chez un médecin, très sympa, endocrinologue chez qui j'allais tous les ans pour mes hormones, parce que je prends des hormones tous les jours, et qui m'a plus ou moins dit, écoute, il faudrait qu'on fasse un test génétique pour voir si c'est dans tes gènes que tu es intersexe, et donc du coup que c'est tes parents qui t'ont mis ça, parce que ça peut être aussi génétique, ou alors c'est toi qui as muté.
Okay.
Et je fais, ok, pour quelle raison? quelle est l'utilité de ça? Et elle me dit, comme ça, de but en blanc, c'est parce que ta sœur, elle n'est pas intersexe, donc elle peut avoir des enfants. Donc, comme ça, si elle est enceinte d'enfants intersexes, elle peut prendre la bonne décision. Ah. Donc, avorter.
Ok. Ouais,
c'est aberrant.
Ouais, c'est moi, des belles baffes.
Du coup,
quoi.
Je lui ai dit, non, mais moi, je n'ai pas envie de faire ce test. Alors, si c'est pour ça, c'était pour faire avancer la science, c'était pour faire quelque chose de bien. Non, mais là, allô. et donc, du coup, j'ai... Enfin, voilà. Après, j'ai un peu parlé avec elle. Elle me dit, non, mais il faut que tu comprennes. T'es malade, t'es pas normal. Les gens normaux, ils sont comme ça. Toi, t'es pas comme ça. Voilà. Et moi, je suis sortie de ce rendez-vous, mais j'étais en pleurs.
Ah bah, j'imagine.
Et encore, moi, je suis une personne qui a assez confiance en moi, qui arrive... Enfin, qui... J'avais pas de problème. Enfin, je vivais bien, j'étais heureuse, etc. À ce moment-là, et je me suis dit, bon, si on me le dit ça à moi, et que moi, ça me touche autant, et que ça me démolit autant, si quelqu'un vient là-bas... Et il est déjà un petit peu démoli, à des questions identitaires, à des questions, c'est pas, et pas bien, enfin, je sais pas. Comment lui réagir? Mais ça peut être dévastateur. Et là, je me suis dit, il faut que ça change, il faut qu'on change. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ensuite, en fait, je participe en cours, depuis 6 ans environ, à l'UNIL, où, en médecine, où pendant 1 heure, une fois par semaine, une fois par année, je raconte mon histoire aux étudiants de médecine de 3e année. Dans ce cadre de ce cours-là, j'ai expliqué cette anecdote et j'ai dit que je voulais créer une association, que je voulais créer quelque chose qui allait changer. Alors, moi, je ne savais pas encore si c'était une association, des vidéos YouTube, si je voulais faire... Enfin, je ne sais pas, aucune idée. Mais faire quelque chose, en tout cas, pour que ça change.
Mmh.
Par mon médecin, plus ou moins en même temps, a eu un contact avec la télévision de France 2 qui voulait faire un film. Et donc du coup, il m'a dit « Ah ben tiens, c'est une bonne idée, je te mets en contact avec la réalisatrice. » Et il a mis en contact aussi d'autres personnes intersexuées. Et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois une personne intersexe, Déborah, qui est aussi dans le comité d'organisation. Mmh. Et c'était magique. Pendant 4 heures, 5 heures, on était dans ma cuisine et on a parlé. Mais on a parlé non-stop. Et c'était comme si, pour la première fois, on rencontrait quelqu'un qui avait passé par les mêmes épreuves, qui avait les mêmes questions identitaires au même moment, qui avait les mêmes cheminements, qui avait... Enfin, c'était juste magique. On pouvait parler ouvertement de qui on était, de qu'est-ce qu'on a vécu. Et après, c'est devenu un peu, en effet, boulimique presque. Parce qu'une fois qu'on a découvert ça, on n'a pas envie de lâcher, on n'a pas envie de nouveau être seul dans ce monde de personnes non intersexes et de personnes qui ne comprennent pas. Et donc, du coup, on a envie de rencontrer une autre personne intersexe, et une autre, et une autre. Et en fait, ça crée toute une communauté, et c'est magique. Mais en fait, pour arriver à ce stade-là, où on rencontre la première personne intersexe qui va, en fait, déclencher cette addiction, ou cette boulimie, ou cette envie de rencontrer la famille intersexe, ben, c'est difficile, parce que on contacte qui, on contacte où, on contacte quand,
bien sûr.
Et on dit quoi.
C'est ça. Et j'imagine qu'il y a en plus le secret médical. Enfin, il y a plein de choses qui font partie. Tu parlais d'invisibilisation. Alors là, c'est effectivement, on est au cœur du sujet.
Et donc, du coup, avec Déborah, ensuite, on se dit, il faut qu'on facilite en fait cette rencontre de personnes intersexuées, mais pas seulement, aussi pour les parents, parce que les parents, quand ils naissent et qu'ils ont un enfant, ils n'arrivent pas à dire. Ah, je vais l'habiller en rose ou ah, je vais l'habiller en bleu. Mais en fait, cet enfant, il est intersexe, ils sont perdus. Mmh. Ils n'ont jamais compris ça. Et s'ils n'ont que le droit au discours pathologisant des médecins, ben, ça avance pas le schmilblick.
Yes,
c'est ça. J'aurais jamais dû dire un mot aussi difficile à l'antenne. Et voilà. Alors. Et donc, du coup, ensuite, avec Déborah, on s'est dit qu'on voulait créer cette association. Par le biais du cours, j'ai rencontré aussi Kate, qui est une maman, qui a créé à Genève l'association SAMED, qui est l'association pour les mères d'enfants différents, donc pas que intersexués, mais aussi, enfin, voilà. Et on s'est mise avec elle aussi pour faire cette association et son fils. Et donc du coup, en fait, dans le comité, il n'y a que des personnes qui sont intersexuées ou alors touchées, puisque la maman, elle a quand même un parcours... Ben, de l'autre côté, et donc du coup, ça nous permet d'aider ou de conseiller ou d'écouter autant les craintes des parents que les craintes ou les questionnements ou des personnes concernées. Mmh.
D'accord. Je te propose qu'on fasse une petite pause musicale et puis oui. On va passer sur la... On va continuer cet entretien. On parlera justement de qui compose cette association, quels en sont les besoins. Également la question effectivement des parents. J'imagine que les parents, effectivement, là aussi, cette association s'adresse également...
Aux parents,
qu'ils puissent effectivement comprendre et puis décrypter, tu l'as dit toi-même, hein, ce vocabulaire qui est souvent un vocabulaire médical et pathologisant, qui est compliqué à comprendre et qui en plus culpabilise, j'imagine, beaucoup les personnes intersexes. On viendra là-dessus,
ouais.
Mais avant cela, voilà, on prend une petite respiration avec un petit peu de musique. Je ne sais pas ce qu'on va passer, un truc assez un petit peu agité, c'est ça ? Voilà, alors en tout cas c'est ça. Et puis pour nos auditrices et auditeurs, si vous souhaitez interroger Audrey, bien rien de plus facile, hein, tu te logues sur la page Facebook de l'émission La Comète à la Banane, ou alors tu me fais un message à l'adresse mail suivante info@libradio.org. On se retrouve dans 3 minutes, c'est parti.
Au Sarkozy qui tombe du port de Brest à l'Ada de Toulon, 500 ans de mobile, on t'en va inhibe de Pasquale Bauri. Mais dites l'air que nous sommes corses et d'une race pure, que nous n'avons pas peur de. À ma naissance, mon père me l'a dit, que je serais un enfant sans souci, que je serais le plus gros des bandits. À l'âge de 5 ans, j'allais à l'école, et à l'âge de 6 ans, le porte-plume en poche, à l'âge de 10 ans, la cigarette au bec, à l'âge de 15 ans, le livre des rampins est mort au vache. Et
m'a servi, car c'est à cause d'elle que je suis ici. Et mon hommage, et me reconnaît à ses enfants depuis de la sûreté. N'ont pas de grâce, n'ont pas de pitié, de mon calibre rosé, monsieur Valdemi. Je me souviens très bien de ma première femme, elle s'appelait Titine. Titine mon amour, Titine mon trésor, je veux vivre avec toi au mourir en prison. Et mon hommage, et mon reconnais à ces enfants de pute de la sûreté. N'ont pas de grâce, n'ont pas de pitié, de mon calibre rosé, monsieur Valdemi. En descendant le cours, on me traitera de lâche. Moi qui suis un torse n'est pas lâche. Sortant mon revolver, visant son triste sort d'une balle en plein cœur, il tomberait de mort. Et mon hommage, et mon reconnais à ces enfants de pute de la sûreté. N'ont pas de grâce, n'ont pas de pitié, de mon calibre rosé, de ces balles d'un pied.
Je me souviens très bien.
Il demande tout soudain le bas de son jupon, la tête en deux. Putain, et mon hommage, et mon reconnais à ces enfants de pute de la sûreté. N'ont pas de grâce, n'ont pas de pitié, de mon calibre rosé, de ces balles perdues. À mon enterrement, 300 putains en armes et 300 maquereaux.
La marginalité, dans le vice et le sexe, et la...